Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est la deuxième partie d'Appel sur l'actualité. Vos réactions, vos commentaires, vos coups de cœur ou même coups de gueule sur l'actualité de la semaine. Tous les sujets nous intéressent, donc n'hésitez pas, interpellez-nous sur l'actualité qui vous a marqué ces derniers jours. Vous lancez le débat, où que vous soyez, vous nous rejoignez. 33 9 693 693 70. Évidemment, si vous êtes à Paris, vous composez le 09 693 693 70. 20 minutes donc pour revenir sur les principaux sujets de la semaine, mais aussi c'est l'occasion de nous interpeller sur des sujets dont on ne parle pas suffisamment, des sujets qui ne font pas forcément l'intérêt des médias, mais en tout cas vous, si cette actualité vous intéresse, eh bien parlez-nous-en sur l'antenne d'RFI. Alain est avec nous, il me semble, il nous appelle de Paris. Bonjour Alain.
Bonjour Juan.
Alors vous êtes nombreux ce matin à souhaiter commenter le retrait des troupes tchadiennes de la MISCA, la force africaine en Centrafrique, annonce hier donc par les autorités tchadiennes. Le ministre des Affaires étrangères disait que le Tchad et les Tchadiens faisaient l'objet d'une campagne gratuite et malveillante malgré tous les efforts consentis par son pays. Vous Alain, en tant que Centrafricain, vous dites que ce départ c'est finalement une très bonne chose.
Oui, c'est une bonne décision du Tchad de retirer son armée de Centrafrique, déjà dans un premier temps pour son image. Et on sait déjà que le Tchad a joué un rôle déterminant dans les différentes crises centrafricaines. Je peux vous citer quelques exemples, Juan. Le Tchad a soutenu le président Patassé en 2001 et après l'a lâché. Il a soutenu... Il a aidé le président Bouzézé en 2003 à prendre le pouvoir. Dix ans plus tard, il a lâché. Le Tchad a soutenu la rébellion Séléka et a installé le président Dotondia au pouvoir. Sept ans plus tard, il a destitué. Et si on regarde les derniers événements de Bangui le week-end passé, où le contingent tchadien, en rentrant de mission à Bangui, a tiré sur une population civile.
Ouais, vous faites référence aux événements le week-end dernier, 24 civils tués à Bangui. En même temps, les militaires tchadiens, eux, disent avoir riposté à des attaques à la grenade. Donc, vous dites que c'est une bonne chose, ça va permettre d'apaiser le climat et la tension aujourd'hui en Centrafrique ?
Non, effectivement, ça permet d'apaiser le climat déjà, et ça permet dans le futur d'établir des bonnes relations diplomatiques avec le Tchad, parce que on va pas se séparer du Tchad, on a besoin du Tchad. Mais ceci étant dit, il faut bien noter que le Tchad n'est pas la cause du malheur centrafricain. Ça, c'est très important, il faut noter ça. Et ce que je voulais aussi parler, c'est le deuxième point, c'est qu'il faut que l'armée centrafricaine doit prendre le relais.
Alors on va en parler dans un instant Alain, vous êtes à Paris, ne raccrochez pas, nous avons Abdoulaye qui nous appelle de Djamena. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Alors vous aussi, vous avez à peu près la même analyse qu'Alain, c'est-à-dire que vous dites que c'est une bonne chose, une bonne décision, mais vous n'avez pas les mêmes arguments.
Effectivement, pour moi, c'est le retrait des soldats tchadiens de la MISCA est une bonne nouvelle parce que mon pays est en train d'être l'objet d'une campagne de dénigrement orchestré par des médias internationaux et des personnes de mauvaise foi qui veulent faire porter au Tchad le malheur dont souffre la République centrafricaine. Chose qui n'est pas du tout vraie, si je peux m'exprimer ainsi.
En même temps, Abdoulaye, excusez-moi, mais les Centrafricains aujourd'hui, on a entendu tout à l'heure le reportage d'Olivier Roger, notre envoyé spécial en ce moment à Bangui, on voit bien que les Africains n'en pouvaient plus de voir des troupes tchadiennes qui couvraient les exactions de la Séléka.
Non, je crois que les Tchadiens, au contraire, militent pour que la paix revienne en Centrafricaine. Je donne un exemple dans le nord et l'est de la République centrafricaine. Aujourd'hui, cette partie est calme parce qu'il y a une présence tchadienne qui insiste sur les milices qui se trouvent dans cette zone-là. On accuse le Tchad d'avoir, les soldats tchadiens, d'avoir commis des exactions dans l'entrée nord de Bangui. Pour moi, et toute la communauté internationale a admis que les soldats tchadiens n'ont fait que riposter à une attaque des anti-Barakas. Il faut dire que les anti-Barakas provoquent les soldats de la MISCA et en conséquence, ils exposent la population.
Donc pour vous, pour revenir aux événements et aux violences de la semaine dernière et de ces 24 personnes tuées à Bangui samedi, pour vous, c'était juste de la légitime défense de la part des soldats tchadiens. Je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de réactions. Mohamed est à Bangui. Bonjour Mohamed.
Oui, bonjour Monsieur Rouhan.
Vous revenez également sur l'annonce du retrait des troupes tchadiennes de votre pays. Comment réagissez-vous ?
Moi, je réagis plutôt positivement. Je crois que cette décision est une décision courageuse de la part du gouvernement tchadien dans le contexte actuel où le contingent tchadien est accusé de soutien tacite au Feleka. Mais ce que je voudrais relever, c'est que les actions du contingent tchadien et pose des conséquences sur la population musulmane qui est vraiment de facto en amalgame par population de centrafricains de confession chrétienne.
C'est-à-dire, expliquez-nous Mohamed, ça c'est intéressant ce que vous dites. Vous parlez d'amalgame, c'est-à-dire que...
Oui, l'amalgame est du fait que on ne comprend pas le contingent tchadien se différencie des mercenaires tchadiens et soudanais qui soutiennent la Feleka et par cette voie et la communauté centrafricaine musulmane est prise vraiment entre deux feux. Voilà ce que je voulais expliquer.
D'accord. C'est-à-dire que vous-même, vous, en tant que musulman centrafricain, vous avez souffert de l'amalgame musulman égal tchadien, donc forcément criminel. C'est ça, pour résumer votre point de vue.
Oui, c'est bien cela. Ouais. Du moment où le contingent tchadien s'efforce à appliquer, les résolutions prises aux Nations Unies, et du coup, de l'autre côté, c'est mal vu par la population chrétienne.
Bien, on aura l'occasion d'y revenir dans les prochains jours. Le réseau téléphone n'était pas bon avec Bangui, ni malheureusement avec Djamena. Voilà, il y a des jours comme ça, on n'y peut rien, et vous non plus, vous qui nous écoutez et qui nous appelez. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir commenté cette actualité. Christian est avec nous de Paris, bonjour.
Bonjour Monsieur Rouhan.
Vous êtes malgache et vous nous parlez de l'actualité dans votre pays puisque deux mois après la prise de fonction du président malgache, il n'y a toujours pas de Premier ministre.
Effectivement Monsieur Rouhan. En fait, j'appelle par rapport à la situation politique à Madagascar, c'est-à-dire qu'après le retour du Madagascar à l'ordre constitutionnel, la situation politique reste bloquée. Donc toujours pas de Premier ministre après deux mois de prise de fonction du nouveau président. Et le peuple continue à souffrir, l'économie ne dépare pas, l'insécurité règne et la pauvreté s'empire de jour en jour.
Donc le fait qu'il n'y ait pas de Premier ministre, vous avez l'impression que ça ne débloque pas l'activité économique et donc par la force des choses l'activité sociale. Comment expliquez-vous que le nouveau président ne se décide pas concernant la nomination d'un Premier ministre ?
En fait, c'est par rapport à l'explication ou bien à l'interprétation de l'article 54 de la Constitution malgache. L'article 54 de la Constitution stipule que le groupement majoritaire à l'Assemblée nationale qui propose le nom du Premier ministre, et c'est le président qui le nomme. Et l'ancienne haute cour constitutionnelle qui s'est chargée de l'investiture du nouveau président a donné son avis par rapport à cet article qui a désigné le groupe parlementaire MAPAR arrivé en tête aux dernières élections de proposer le nom du Premier ministre.
Du Premier ministre, effectivement. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a d'un côté le MAPAR, qui est donc la première force politique du pays, puisqu'ils ont obtenu, je crois, quasiment 50 députés. Le MAPAR revendique le poste de Premier ministre, mais la majorité présidentielle dit, nous aussi, on pourrait et on a le droit de proposer un candidat. Donc pour l'instant, le président n'a toujours pas tranché.
Non, mais ce qu'il ne faut pas oublier, M. Rouhan, la majorité présidentielle, c'est une majorité des circonstances. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le MAPAR qui a soutenu le président durant l'élection présidentielle. Et cette majorité, qui est majorité PMP, que j'appelle majorité des circonstances, ça ne peut pas aller loin avec les majorités qui est composée effectivement des barons de l'ancien régime de monsieur le président en exil.
Ouais. En tout cas, le président a dit que ce sera pour bientôt. Il prépare ça dans la tranquillité, dans la réconciliation nationale. Donc peut-être une annonce dans les prochains jours, voire peut-être même dans les prochaines heures, on ne sait jamais. Christian, merci de nous avoir appelé de Paris et on salue au passage tous ceux qui nous écoutent à Antananarive, à Madagascar sur les 98 FM. Le Burkina Faso, une fois de plus, la justice burkinabé a reporté sa décision sur l'exhumation de Thomas Sankara. Bonjour Mac.
Bonjour.
Vous êtes à Ouagadougou. La famille de l'ancien président burkinabé assassiné en 1987 souhaite que sa dépouille soit expertisée puisque à ce jour personne ne sait si dans la tombe qui est présentée comme celle de l'ancien président, une tombe qui se trouve dans un cimetière de Ouagadougou, si cette tombe-là est bel et bien celle de Thomas Sankara, puisqu'à l'époque des faits en 87 la famille n'avait pas pu identifier le corps. Et vous êtes très déçu par le fait que la justice burkinabé n'ait toujours pas rendu son verdict.
Oui, Owen, parce que voilà des années durant qu'il y a toute une polémique autour de ce sujet. Et chez nous, en Afrique, on a tendance à dire que pour qu'une famille fasse tranquillement son deuil, il faut qu'on enlève tout équivoque sur un décès d'un parent. Alors moi, je pense que c'est tout à fait normal que la famille demande l'exhumation du corps de l'ancien chef d'État afin que toute la lumière soit faite dessus et que le peuple puisse avancer dans une droite ligne, dans une vérité où tout le monde sera satisfait, où tout le monde aura une réponse par rapport à ce qui s'est passé.
Ouais, oui, bien sûr. Merci beaucoup Mac, on vous souhaite une bonne journée à Ouagadougou, on aura peut-être l'occasion de revenir sur ce sujet dans les prochaines semaines. 33 9 693 693 70, bonjour Joël.
Bonjour.
Vous êtes en région parisienne.
Je voulais intervenir sur l'échec des négociations israélo-palestiniennes, qui à mon avis ont décrédibilisé Obama. Il s'est montré très ferme vis-à-vis de la Russie lorsque celle-ci a annexé la Crimée, qui pourtant ne faisait partie de l'Ukraine que depuis 60 ans et peuplée en majorité de Russes, et il n'est pas en mesure de faire plier Netanyahou sur la libération d'une vingtaine de prisonniers. Alors on peut comprendre ce qu'attendait Netanyahou de ces négociations, c'est-à-dire les faire durer indéfiniment, parce que pendant ce temps-là, Mahmoud Abbas ne faisait pas de démarche pour que la Palestine fasse partie des institutions internationales, telles que la CPI. Pendant ce temps-là, il continuait à coloniser, mais qu'attendait Obama ? Moi, c'est la question vraiment que je me pose. Kerry a fait de multiples allers-retours pour obtenir aucune concession, et c'est un échec pour la diplomatie américaine, un échec total pour moi.
Et donc pour vous, Obama, une fois de plus, perd de sa crédibilité ?
Ah oui, tout à fait. Oui, parce que ça fait deux poids deux mesures. Il a montré ses muscles au niveau de la Russie, vraiment, bon, il va y avoir des sanctions, etc. Et puis en fait, il se couche devant Netanyahou. Enfin, moi, je le conçois comme ça. Hein.
Bon, Joël, merci d'avoir appelé. Bonne journée en région parisienne. L'affaire Awa Fadiga, on en a parlé en début de semaine. C'est vrai que c'est une affaire qui suscite de nombreuses réactions de colère, d'indignation en Côte d'Ivoire. Awa Fadiga, c'est ce jeune mannequin de 23 ans qui est décédé la semaine dernière dans un hôpital d'Abidjan, le CHU de Cocody. Et sa famille affirme que la jeune femme est décédée car le personnel des urgences exigeait d'être payé avant de réaliser les premiers soins médicaux. D'ailleurs, la jeune mannequin est restée 16 heures à même le sol aux urgences de Cocody avant d'avoir les premiers soins des médecins urgentistes. Frédéric, vous êtes à Abidjan, bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes... Oui. Allez-y.
Je voulais intervenir justement sur le sujet parce que on a un cri de colère de tous les Ivoiriens, mais c'est simplement parce que tout le monde a plus ou moins été victime du système de santé en Côte d'Ivoire un jour ou l'autre. On a constaté tout simplement une disparition de la notion de malade, de patient, pour laisser transparaître une notion de client. Les malades sont devenus des clients en fait des hôpitaux. Donc on est tous un peu révoltés par rapport à ça. Et c'est ce qui a amené justement le décès de la jeune dame qui est arrivée aux urgences. Il n'y a plus cette notion d'urgence, parce que quand vous venez dans un hôpital public, on vous demande de payer d'abord. Ben ouais, la notion d'urgence, alors si vous devez attendre de recevoir de l'argent, de payer avant de vous faire soigner. Ouais. C'est tout ça qui nous révolte un peu.
Et en même temps, les médecins, eux, les pauvres urgentistes, n'y peuvent rien, parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, qui sont quand même très actifs en Côte d'Ivoire, de nombreuses réactions s'en prendre directement au corps médical.
Effectivement, on s'en prend un peu aux médecins, mais il faut dire que c'est pas vraiment directement de leur faute. Pourquoi on s'en prend à eux? Parce qu'on estime que c'est eux qui sont dans le corps médical, c'est eux qui sont censés réagir face aux autorités. Mmh. Bon, néanmoins, je me dis qu'aujourd'hui, ils sont dans une situation de précarité. Hein. Quand vous regardez un médecin aujourd'hui, un interne touche quasiment 200 000 francs CFA. C'est le salaire d'un bac plus 2 d'un agent de maîtrise dans le privé. Donc, ils sont dans une situation de précarité, ce qui les pousse progressivement à aller vers les cliniques privées et à délaisser les CHU, qui sont des hôpitaux publics, qui sont ouverts à la rigueur aux personnes qui sont moins nantis. Mmh. Voilà. Donc, je pense que quelque part aussi, il faut repenser complètement le système de santé. Il faut même aller, on a un peu peur de ce mot-là en Côte d'Ivoire, mais il faut aller vers les états généraux de la santé. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, par exemple, on a un grand plan des infrastructures, c'est-à-dire on investit, on a créé un programme présidentiel d'urgence qui fait la part belle aux infrastructures routières, mais ça, je pense que c'est plutôt électoraliste, même si c'est vrai que ça sert. Mais je pense qu'on doit faire aussi un grand plan qui permet de doter de nouveau les CHU, les centres de santé en équipement de base.
Mmh. En tout cas, je tiens à préciser que le ministère de la Santé conteste la version de la famille et des proches d'Awa Fadiga. Elle a reçu les premiers soins médicaux que nécessitait son état, c'est ce que dit clairement le communiqué du ministère de la Santé. Merci à vous, Frédéric, de nous avoir appelé d'Abidjan. Qui avons-nous ? Alimou, me dit-on. Bonjour, Alimou.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Conakry, en Guinée ?
Oui.
Voilà, et vous souhaitiez nous témoigner de la situation dans votre pays qui fait face à une épidémie de fièvre hémorragique, en partie due au virus Ebola.
Effectivement, Juan, je voudrais d'abord exprimer ma compassion à l'endroit de tous ceux qui ont perdu leur proche dans cette maladie.
86 personnes tuées à cause de ce virus ces derniers jours. Oui.
Je voudrais dire aussi qu'il y a une sorte de psychose dans la cité guinéenne, parce que l'Ebola fait peur, les gens... on peut des contacts personnels, corporels, c'est tout, et c'est de bonne guerre. Parce que quand on dit qu'une maladie peut se transmettre par la simple sueur, donc imaginez-vous. Mmh. Donc il y a une sorte de psychose généralisée qui vraiment fait peur à tout le monde.
Et en même temps, il y a de nombreuses ONG sur le terrain, en tout cas elles sont quelques-unes, et on pense notamment à Médecins Sans Frontières qui a déployé une trentaine de personnes depuis une quinzaine de jours pour faire face à cette épidémie. Il y a quand même des campagnes de sensibilisation et d'information.
Absolument, il faut reconnaître que ces derniers jours, le gouvernement a essayé de se rattraper, parce que moi je n'ai pas compris comment une maladie qui tue depuis 3 mois en zone forestière, pourquoi les autorités n'ont pas été très promptes dans la réaction. Les radios privées relayaient qu'il y avait une maladie qui tuait, on parlait de maladie mystérieuse. Mmh. Donc imaginez-vous, depuis 3 mois, donc je pense que il y a eu une défaillance à ce niveau. Ouais. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a une grande campagne de sensibilisation.
Ce que vous reprochez aux autorités sanitaires, c'est de ne pas avoir saisi, dès le problème, l'urgence, en fait. C'est-à-dire qu'on a un peu peut-être sous-estimé l'importance de ce virus et la gravité de ce virus les premières semaines. Merci à Alimou de ce témoignage. On est obligé de rendre l'antenne. C'était la libre antenne du vendredi. Merci à tous de votre fidélité. Nous serons de retour lundi. Lundi est journée spéciale sur RFI à l'occasion des commémorations du 20e anniversaire du génocide au Rwanda. Nous vous donnerons la parole avec des invités, des journalistes de la rédaction. Vos questions, nous les attendons, et vos réactions. Où en est la réconciliation?